Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, édition du 2 juillet 2014, Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie.
Au sommaire ce soir, Ebola. Après des centaines de morts, les dirigeants africains lancent une offensive concertée contre le virus.
En Centrafrique, mésentente au sein de Seleka, une assemblée à Birao pourrait ne pas réunir tous les principaux dirigeants de la coalition rebelle.
L'Assemblée générale, ce n'est pas une seule personne, une seule individu qui s'élève, qui dit « j'ai dessus l'Assemblée ».
On aura la réaction de Abdoulaye Hissène Ramadan.
En France, mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence.
On peut faire l'hypothèse que les juges ont trouvé des choses qui permettent de mettre en cause directement Nicolas Sarkozy dans cette affaire qui en soi d'ailleurs n'est pas gravissime.
Alain Auffray du journal Libération que nous entendrons tout à l'heure.
Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine alors qu'à Berlin, des responsables ukrainiens discutent de la crise avec quelques alliés occidentaux.
Et bien sûr, en fin d'émission, la Coupe du Monde au Brésil avec notre envoyé spécial, Nicolas Pinault. Mais tout d'abord, le journal.
Offensive africaine contre l'Ebola, 11 ministres de la Santé sont réunis à Accra, au Ghana, pour coordonner les efforts de lutte contre l'épidémie. L'Organisation mondiale de la Santé annonce que 467 personnes ont succombé au virus dans la sous-région cette année. Jean-Roger Bion.
Le ministre de la Santé de la Guinée est à Accra avec ses homologues de tous les pays voisins, ainsi que ceux de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo qui avaient été touchés par la fièvre hémorragique. À la fin de leur rencontre de 2 jours, les ministres doivent adopter un plan de lutte contre la fièvre Ebola. L'OMS, qui a convoqué cette réunion d'urgence, appelle à une réponse forte pour contenir l'épidémie, en particulier aux frontières de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. La Guinée, épicentre de la maladie, est le pays le plus touché, avec 303 décès. La maladie s'est propagée en Sierra Leone et au Libéria, où ont été signalés au mois de juin une forte augmentation des cas et décès causés par cette maladie hautement contagieuse. L'épidémie d'Ebola s'est pour la première fois déclarée sur le continent en 1976 en RDC et avait fait 280 morts.
En Centrafrique, la coordination politique provisoire des ex-Seleka dit non à l'Assemblée générale convoquée demain à Birao par Noureddine Adam, numéro 2 de la coalition. Le coordonnateur politique provisoire Abdoulaye Hissène a indiqué aujourd'hui qu'un individu seul n'est pas habilité à décider du sort de la coalition. Le point avec Idriss Fall.
Le coordonnateur politique provisoire réagit à la publication lundi du communiqué du général Noureddine Adams annonçant la suspension de la coordination politique provisoire et convoquant une nouvelle assemblée générale à Birao, principale ville dans l'extrême nord-est du pays. C'est une décision unilatérale pour Abdoulaye Hissène Ramadan.
La coordination assume ses responsabilités politiques militaires. À ce qu'il y ait jusqu'à tenue de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ce n'est pas une seule personne, une seule individu qui s'élève, qui dit « j'ai dessus l'Assemblée ». C'est combien de personnes qui étaient en délai pour décider cela? Ce n'est pas une seule individu qui va dessus de ça.
Par ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée à Ngakobo, à 60 km de Bambari. Des ex-Seleka ont fait irruption dans cette localité et ont tiré pendant plusieurs heures. Ahmed Nedjad, porte-parole de l'état-major des forces nouvelles à Bambari, a dit qu'il s'agissait d'une opération de traque des éléments anti-Balaka.
Au Congo-Brazzaville, ouverture du procès de Marcel Nsuru, ancien chef adjoint des services de renseignement congolais. Il est notamment jugé pour rébellion devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Brazzaville, aux côtés de 113 autres personnes. Marcel Nsuru, ex-colonel âgé de 57 ans, a été arrêté le 16 décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée en plein centre de la capitale congolaise.
Ahmed Abou Katala, le Libyen capturé par les États-Unis et transporté à Washington pour être jugé, était motivé par son extrême ferveur contre l'Occident. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui les avocats du gouvernement américain. Katala doit rester en prison jusqu'à la tenue de son procès. L'homme de 43 ans a plaidé non coupable. Il est accusé d'avoir participé aux attaques du 11 septembre 2012 contre le consulat américain à Benghazi, où des citoyens américains ont été tués, dont l'ambassadeur Chris Stevens.
Naufrage au large de l'Italie. Environ 75 personnes sont portées disparues d'après le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Ce drame se serait produit ces derniers jours dans le canal de Sicile qui sépare l'Afrique du Nord des côtes italiennes. Il intervient alors qu'il y a trois jours, 45 cadavres ont été découverts à bord d'une autre embarcation de réfugiés. Depuis le début de l'année, selon les autorités, plus de 65 000 migrants et réfugiés fuyant la guerre ou la pauvreté ont débarqué en Italie.
Le programme alimentaire mondial annonce la réduction de son assistance à près de 800 000 réfugiés en Afrique. Cette baisse de 40 à 60% affectera des réfugiés en Centrafrique, au Soudan du Sud, au Tchad, en Ouganda, en Mauritanie, au Ghana, au Libéria et au Burkina Faso. Deux raisons avancées par un porte-parole du PAM. La sécurité et le financement. Le PAM n'a tout simplement pas reçu assez d'argent, dit Peter Smerdon, tandis que la livraison par voie terrestre est devenue plus difficile dans les zones concernées. Selon l'ONU, 2 400 000 réfugiés à travers le continent africain dépendent de l'aide alimentaire du PAM.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé à une enquête rapide sur l'enlèvement et l'assassinat d'un adolescent arabe à Jérusalem. Écoutons Bagassi Koura.
La police n'a pas encore identifié le corps, mais a été alertée après qu'un jeune Palestinien a été forcé dans une voiture dans un secteur arabe de Jérusalem. Des proches craignent que le cadavre calciné découvert dans la vieille ville soit le sien et que ce serait en représailles à la mort de trois adolescents israéliens en Cisjordanie. La tension est tombée d'un cran dans un quartier de Jérusalem-Est. Des centaines de Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces israéliennes qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a accusé l'État hébreu. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a demandé pour sa part l'application stricte de la loi pour savoir qui était derrière ce qu'il a qualifié d'assassinat répréhensible.
En France, après 15 heures de garde à vue, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Dans un entretien accordé à TF1 et Europe 1, Nicolas Sarkozy dénonce une instrumentalisation politique de la justice et affirme n'avoir jamais commis d'actes contraires à l'état de droit. Alain Auffray, chef du service politique du journal Libération, revient sur les implications politiques de cette mise en examen. Au micro...
C'est quand même une très grosse surprise. Ce qui est surprenant, c'est surtout la gravité de l'inculpation. Hein. Il s'agit là de corruption active. Ça veut dire qu'on peut faire l'hypothèse que les juges ont trouvé des choses qui permettent de mettre en cause directement Nicolas Sarkozy dans cette affaire, qui en soi d'ailleurs n'est pas gravissime. Hein. Il a juste essayé d'avoir des renseignements sur une affaire le concernant auprès de magistrats. Mais enfin, s'il a promis des choses en échange, et si c'est avéré, on rentre dans quelque chose de très très embêtant pour lui. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça contrarie complètement ses plans d'origine. Il était parti pour revenir un peu en majesté, en espèce de nouveau De Gaulle qui vient sauver le pays du désastre. Et voilà qu'il est obligé de s'expliquer sur son propre cas devant à la télévision, éventuellement de reprendre le parti. Enfin, tout ça ne ressemble pas du tout à la figure de l'homme providentiel ou du général De Gaulle.
Alors on écoutait Alain Auffray du journal Libération en France.
Le climat de violence persiste dans l'est de l'Ukraine un jour après que le président Petro Poroshenko a mis fin à un cessez-le-feu unilatéral de 10 jours, qui n'a d'ailleurs produit aucun résultat. Selon un porte-parole du Conseil national de sécurité et de défense à Kiev, au moins 5 soldats ukrainiens ont été tués et 21 autres blessés dans le camp des rebelles séparatistes, dit-il. Des centaines de personnes sont mortes dans les combats ces dernières 24 heures. Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine sont à Berlin pour discuter de la crise.
Au moins 8 officiers militaires afghans sont morts et plusieurs autres blessés lors d'un attentat suicide sur un bus de l'armée de l'air à Kaboul. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cette attaque qui a eu lieu tôt ce matin près de l'université de Kaboul. Par ailleurs, les responsables électoraux ont reporté à mercredi prochain la publication des résultats préliminaires de la présidentielle. Le candidat Abdullah Abdullah, qui est arrivé largement en tête au premier tour, a accusé la commission électorale d'organiser un second tour frauduleux à l'avantage de son rival Ashraf Ghani.
L'Iran se dit prêt à franchir les étapes concrètes pour maintenir le caractère pacifique de son programme nucléaire. Cette déclaration intervient au moment où les délégués du groupe 5+1 arrivent à Vienne pour une série finale de négociations avec le gouvernement iranien. Dans une vidéo postée sur YouTube, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a plaidé en faveur du respect mutuel lors de ses pourparlers, disant que l'Iran ne va pas se mettre à genoux. Les parties ont jusqu'au 20 juillet pour parvenir à un accord définitif. En cas de prolongation, les négociations risquent d'être encore plus difficiles, disent les responsables.
À Hong Kong, la police a arrêté plus de 500 personnes ayant pris part à un sit-in la nuit dernière suite à un grand rassemblement pro-démocratie. La plupart des manifestants n'ont offert aucune résistance, mais certains ont été emmenés de force. Pour Amnesty International, cette arrestation en masse est pour le moins troublante, car les manifestants n'avaient enfreint aucune loi, dit l'ONG.
C'est la première fois dans l'histoire de l'armée américaine qu'une femme est promue numéro 2 de la marine. Michelle Howard a accepté ses nouvelles fonctions de vice-chef des opérations navales avec grade d'amiral 4 étoiles. Michel Joseph.
Depuis l'obtention de son diplôme de l'Académie navale en 1982, Michelle Howard était la première femme africaine-américaine à obtenir 3 étoiles dans l'armée, la première à atteindre le grade d'amiral dans la marine américaine et la première femme africaine-américaine à diriger un vaisseau naval.
If you don't believe today was a first, when I called to order 4-star shoulder boards for women, they didn't exist.
Si vous ne croyez pas, c'est la première fois que j'ai commandé des épaulettes 4 étoiles pour femmes, elles n'existaient pas. Un contrat spécial a été signé et, vous voyez, la première épaulette du genre dans l'histoire de la marine des États-Unis. Howard était au Pentagone pendant les attaques du 11 septembre 2001 et en 2009, elle avait participé à l'opération de sauvetage du capitaine Phillips, détenu par des pirates somaliens. D'ailleurs, le capitaine Phillips est maintenant le titre d'un film très célèbre.
Et voilà pour le journal. Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique et on poursuit notre programme.
Joseph Kabila parviendra-t-il à se représenter en 2016 ? Une question récurrente alors que le gouvernement congolais veut réviser la constitution, Nathalie.
L'État congolais est une république et non une monarchie. Ça, c'est ce qu'a déclaré dans un communiqué la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le porte-parole de la CENCO, Léonard Santédi, a appelé hier la population à empêcher de manière pacifique et légale la modification de l'article 220. Et je l'ai joint à Kinshasa.
Cet article est vraiment un compromis fondateur de l'État actuel. Cet article, les évêques ont dit que c'est vraiment le fruit de l'histoire du Congo, aux expériences politiques malheureuses de la Première et de la Deuxième République.
Alors, vous vous inquiétez de l'éventuelle modification, notamment pour les députés provinciaux qui pourraient être élus au scrutin indirect.
Absolument. Dans l'avenir du pays, avec la décentralisation, les députés provinciaux joueront un rôle important. Et donc, il est important que le souverain primaire, le peuple, puisse élire directement ses députés, ses représentants au niveau de la province. Passer par un vote indirect, c'est vraiment priver les souverains primaires de son droit. C'est aussi aller vers l'arbitraire dans un environnement de corruption.
Que vous a dit le gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils veulent modifier plus précisément ?
ce soir, justement, donc, on annonce des modifications. On ne dit pas quel article on veut modifier. Pourquoi les évêques lancent un appel pressant pour que, justement, on ne touche pas à ces articles-là qui sont le fruit d'un large consensus, une démocratie acquise avec l'aide de la communauté internationale, avec l'effort de tous les Congolais.
Les évêques du pays appellent la population congolaise donc à s'opposer, vous précisez bien, par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés. De quelle manière s'opposer à cela?
D'abord, les évêques se proposent de sensibiliser la population pour qu'elle prenne son destin en main, qu'elle soit à même de barrer la route à tous ceux qui chercheront à demander la modification, interpeller leurs représentants et aussi les représentants des partis politiques par des moyens légaux, pacifiques, dire non, non, non à ce changement-là. Nous avons des exemples de certains pays africains qui sont maintenant en cité d'alternance, que le peuple puisse s'approprier cela et puisse être capable de dire non si on propose la modification de cet article qui protège la nation.
L'abbé Léonard Santédi est secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
En France, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption et trafic d'influence ainsi que pour recel de violation du secret professionnel. Violette Lazare, spécialiste des affaires judiciaires au journal Libération, revient avec Claire Morin-Gibourg sur le déroulement de cette affaire.
Cette affaire commence par une mise sur écoute de Nicolas Sarkozy dans le cadre d'un autre dossier. C'est un dossier qui porte sur des soupçons de financement de sa campagne en 2007 par le colonel Kadhafi. Donc dans le cadre de ce dossier, les juges d'instruction décident de mettre Nicolas Sarkozy sur écoute. Au fil des semaines, ils s'aperçoivent que Nicolas Sarkozy parle de moins en moins sur son téléphone portable et ils finissent par soupçonner qu'en fait, il s'est procuré un autre téléphone. Donc ça suppose qu'il a été averti de sa mise sur écoute. Au bout de quelques semaines, ils arrivent à trouver ce nouveau portable et ils le mettent sur écoute. Et là, sur ce téléphone, les conversations sont totalement différentes parce que Sarkozy pense qu'il n'est pas écouté, donc le ton est totalement libre. Et il s'agit surtout de conversations entre lui et son avocat, Thierry Herzog. On est à ce moment-là en janvier-février 2014. La Cour de cassation s'apprête à rendre une décision dans le cadre du dossier Bettencourt et Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy essayent de se renseigner sur cette décision qui est évidemment couverte par le secret de l'instruction. Comment ils font? Ils vont faire appel à un vieil ami, un magistrat qui s'appelle Gilbert Azibert et qui est réputé pour être un magistrat proche de la droite, hein, il s'en est jamais caché. Il a le droit, si à partir du moment où il couvre, où il respecte le secret professionnel et le secret de l'instruction. Mais là, il va manifestement le violer ou en tout cas il va faire croire qu'il le viole en se renseignant auprès de ses collègues pour savoir est-ce que dans la décision Bettencourt, ça avance, quelle direction ça prend, etc. Il rappelle Thierry Herzog pour le tenir au courant un peu des avancées. Et pourquoi il y a corruption? Herzog et Sarkozy apparemment lui promettent en échange un poste à Monaco.
Et donc c'est là qu'intervient cette corruption active.
Pour l'instant, c'est difficile à dire parce que l'enquête, au début, elle était ouverte pour trafic d'influence. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait une mise en examen pour corruption active, ça laisse supposer qu'il y a des faits nouveaux qui ont été découverts dans le cadre de l'enquête. Alors, est-ce que c'est des preuves matérielles? Est-ce que c'est des aveux? Est-ce que c'est des nouvelles écoutes? On ne sait pas encore, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des faits nouveaux.
On écoutait Violette Lazare, spécialiste des affaires judiciaires au journal Libération en France.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Alors que les fans de football se délectent des matchs de la Coupe du Monde 2014, les autorités brésiliennes se réjouissent à l'idée du coup de fouet que le tournoi ne manquera pas de donner à l'économie nationale. Toutefois, les spécialistes de ce type d'événement sont moins enthousiastes.
Merci.
Une chose est sûre, la Coupe du Monde 2014 a injecté environ 15 milliards de dollars dans l'économie brésilienne et créé de nombreux emplois, estime Vicente Neto, chef d'Ambratour, agence brésilienne de promotion du tourisme.
E em relação ao legado humano, números que são extraordinários.
Côté humain, les chiffres sont extraordinaires. Création d'un million d'emplois dans le pays en rapport avec ce grand événement. Un million d'emplois, soit 15% de l'ensemble des emplois créés cette année au Brésil. Le gouvernement a investi 11 milliards de dollars dans les stades et autres infrastructures et 2 autres milliards dans la sécurité. Il devrait encore dépenser des milliards de dollars dans la préparation des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Chris Gaffney, professeur d'architecture et d'urbanisme à l'Université fédérale Fluminense de Rio de Janeiro, étudie de tels méga-événements sportifs. Il est d'avis que les chiffres avancés par le gouvernement sont exagérés. Je ne pense pas, dit-il, qu'ils ont investi assez d'argent pour créer des emplois permanents. À l'échelle de l'économie brésilienne, nous ne voyons pas ces montants d'argent investis. Ce sont 30 milliards de dollars investis dans une économie de 1 000 milliards de dollars. Lisa Delpinerotti de l'Université George Washington, ici aux États-Unis, pense de son côté que les bénéfices économiques réels de tels événements sont moins palpables et plutôt à long terme.
Il y a beaucoup de transferts de connaissances. Les gens apprennent plus de choses concernant le secteur hôtelier. Il y a aussi le centre audiovisuel où les gens sont formés à l'utilisation de la technologie.
Explique Mme Nerotti, qui anticipe aussi des progrès dans les secteurs de la commercialisation et de la vente au détail. Chris Gaffney pense que les fonds investis bénéficient à très peu de Brésiliens. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques font partie d'un modèle, celui d'une industrie extractive faisant très librement le tour du monde, un modèle vertical utilisant les intérêts des élites politiques et économiques locales pour gagner de l'argent au compte des compagnies internationales. Un avis que ne partage pas du tout Lisa Delpinerotti de l'Université George Washington.
Oui, il y a beaucoup d'argent dépensé ici. Nous devons comprendre que les infrastructures érigées pour la Coupe du Monde sont des choses durables qui resteront dans le pays.
D'autres analystes affirment que la Coupe du Monde peut aider l'économie brésilienne, mais elle pourrait accentuer l'inflation et accroître la dette publique. Un récent sondage d'opinion a montré que moins de la moitié des Brésiliens pensent qu'organiser la Coupe du Monde est une bonne idée. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de manifestations contre la Coupe du Monde, même si celles-ci ont diminué depuis le coup d'envoi de la compétition. Qu'à cela ne tienne, de nombreux Brésiliens sont fiers d'accueillir la Coupe du Monde et les 600 000 visiteurs étrangers qu'elle apporte. Leur espoir est que ces hôtes retournent chez eux avec une bonne image du Brésil.
Et oui, le journal de la Coupe du Monde, c'est tous les jours sur La Voix de l'Amérique avec Bagassi Koura, ses invités et notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pinault.
Alors, Nathalie Bagassi est déjà en studio. Salut!
Oui, bonsoir, cher Rubin, bonsoir à tous. C'est donc fini pour les huitièmes de finale et on connaît le tableau complet des quarts de finale. Ce sera d'abord vendredi, France-Allemagne, Brésil-Colombie et samedi, cher Rubin, ce sera Pays-Bas-Costa Rica et Argentine-Belgique. Et vous vous rappelez les Belges hier, hein, chérubins, comme de beaux diables. Les Diables Rouges se sont battus jusqu'à la dernière seconde face à une équipe américaine très résistante. Nicolas Pinault, notre envoyé spécial au Brésil, nous parle de ces quarts de finale. Mais d'abord, il revient sur ce match des Belges.
Les Diables Rouges ont vraiment été diaboliques, notamment Lukaku, hein, qui a marqué le dernier but qui a permis, après prolongation, à la Belgique de l'emporter 2-1. C'est vrai que les Américains ont poussé dans les 10 dernières minutes, mais sur la physionomie du match, vous l'avez vu vous-même, les Rouges ont largement dominé cette confrontation ici à Salvador de Bahia. Et tout s'est débloqué finalement après la fin du temps réglementaire dans les prolongations. De Bruyne a d'abord marqué, puis doublé avec Lukaku. On pensait que le match allait s'arrêter là avec une victoire de la Belgique. Puis Green, le plus jeune joueur de la Coupe du Monde, qui a réduit le score pour les Américains. Et ça a été vraiment 10 dernières minutes de folie. Les Américains ont eu des occasions, malheureusement, Dempsey notamment, seul face au gardien, n'a pas pu les transformer. Élimination des États-Unis. Mais tous les 4 ans, les Américains sont meilleurs faut donc espérer pour la prochaine Coupe du Monde.
Nicolas, il faut dire que lors de ces huitièmes, les gardiens ont beaucoup contribué. On a vu avec le Mexique, on l'a aussi vu avec le Nigeria, Vincent Enyama. Et hier, Tim Howard a beaucoup sauvé l'Amérique.
Et oui, et surtout ce qui est vraiment intéressant de noter, le niveau très proche de toutes les équipes. Hein, on l'a vu, l'Argentine contre la Suisse, le Mexique contre les Pays-Bas. On a vraiment des équipes qui se tiennent. Il y a un resserrement au niveau international. Les huit dernières équipes qui restent en lice, il n'y a pas vraiment une équipe qui domine vraiment son sujet. Tout le monde a eu des difficultés en huitième de finale. Il a fallu évidemment aller aux prolongations. Donc c'est vrai que tout le monde se tient. Un grand coup de chapeau aux gardiens évidemment et aux défenseurs. Et on attend évidemment impatiemment les quarts de finale avec certainement la fatigue qui va rentrer en jeu avec forcément l'accumulation des matchs dans les jambes.
Nicolas, on connaît le tableau complet de ces quarts de finale. Ce sera Brésil-Colombie dès vendredi, France-Allemagne, Costa Rica-Pays-Bas samedi et Argentine-Belgique également samedi. Est-ce que le Costa Rica est vraiment l'équipe surprise de ces quarts?
Ah oui, le Costa Rica qui a fini premier de son groupe. Rappelez-vous, Bagassi, élimination de l'Italie, de l'Angleterre, qualification difficile de l'Uruguay. Les Costa Ricains et globalement, Bagassi, la zone CONCACAF avec le Mexique et les États-Unis qui a vraiment créé la surprise sur cette Coupe du Monde. Alors, que peuvent faire les Costa Ricains face aux Pays-Bas archi-favoris? On l'a vu contre le Mexique, les Pays-Bas qui ont été déstabilisés, les Pays-Bas qui ont été menés. Donc tout est possible pour cette équipe du Costa Rica. C'est son premier quart de finale. Ils avaient déjà accédé une fois en huitième de finale. Ils avaient été battus. Là, c'est la bonne. On espère pour cette équipe. Et ça amènerait évidemment un vent de fraîcheur.
On avait beaucoup parlé des équipes d'Amérique latine. Mais il reste encore trois en course. Il y a la Colombie. On a parlé tout à l'heure du Costa Rica. Il y a aussi le pays organisateur, le Brésil, qui tient bien à sa coupe.
Et oui, et il en restera un moins évidemment, puisque la Colombie et le Brésil s'affrontent ce vendredi à Fortaleza. Neymar est confirmé pour ce match. Il y avait une incertitude après les coups reçus contre le Chili. Mais là encore, on a vu une équipe brésilienne de plus en plus brouillonne, de plus en plus critiquée ici au Brésil, notamment le deuxième attaquant, Fred. C'est vrai que depuis le match, notamment d'ouverture contre la Croatie, une victoire, mais une victoire difficile. Depuis, la Seleção n'a pas vraiment convaincu, évidemment, ici, tous les Brésiliens. Et en face, ça va être très, très dur, car, évidemment, les Colombiens possèdent le meilleur buteur de ce tournoi, James Rodriguez, déjà auteur de 5 réalisations. Et c'est vrai que là où les Chiliens ont pu pêcher dans la qualité offensive, les Colombiens auront des armes beaucoup plus importantes. Et donc, on peut penser que le Brésil aura le plus grand mal à se défaire de cette équipe colombienne qui accède justement à ces quarts de finale. Une confrontation intéressante, évidemment, qui sera à suivre vendredi à Fortaleza.
Le match d'ouverture de ces quarts de finale, ce sera un choc entre les deux grands voisins européens, la France et l'Allemagne, Nicolas.
Et oui, tout à fait. Les retrouvailles historiques, évidemment, entre ces deux équipes européennes qui se connaissent bien. Les Français qui n'ont pas forcément des bons souvenirs contre les Allemands en Coupe du Monde, notamment en 1982, en 1986. L'Allemagne, avec son meilleur buteur Müller, sera certainement favorite, mais les jeunes Français ont montré qu'ils avaient de la ressource, et donc on peut s'attendre à quelque chose de très ouvert, notamment car les Allemands ont une prolongation dans les jambes en plus face aux Algériens, et donc on va certainement avoir un défi physique, notamment puisque le match va se dérouler à 13h, ce sera encore une fois très difficile, Bagassi.
Voilà, c'était donc notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Et Chérubin, un homme dont on parle beaucoup ici aux États-Unis, c'est Tim Howard, le gardien que vous avez vu hier. Il était impérial face à une équipe belge qui a finalement pu l'emporter.
Absel, pratiquement le débordement sur Twitter. On le nomme candidat à la présidence, son même président. Et Tim Howard est peut-être l'Américain le plus populaire aujourd'hui.
Voilà, c'est tout donc pour le journal des sports.
Merci, Bagassi Koura. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi! Selena Gomez et Justin Bieber se sont à peine remis ensemble que déjà, leur relation semble prendre la direction d'un échec.
après s'être séparés en avril dernier, après que le chanteur canadien se soit trop rapproché de Kylie Jenner. Les deux stars ont finalement remis le couvert il y a quelques semaines et ils semblaient amoureux, hein, comme au premier jour. Selena Gomez, qui avait pourtant décidé d'étirer une croix sur le bad boy, lui a donné une nouvelle chance, Gabi. Pourtant, Justin Bieber a déjà repris ses mauvaises habitudes. On écoute Selena Gomez dans cette belle chanson Save the Day.
Kiss the moon goodbye, but don't close your eyes, your eyes. It's the end of the night, but the beginning of time for you and I.
Voilà, c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Yemi Adjemi a dirigé la mise en onde. Kelvin Fowler était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorcil. Bonne soirée, à très bientôt.